Radio
C'est bon, c'est
l'émission d'info locale.
Radio
Quimper.
Bonjour tout le monde, vous écoutez Radio U. Nous sommes aujourd'hui au festival de cinéma Le Kif à Quimper, proposé par l'association Gros Plan. Je suis Lio et aujourd'hui autour de la table, nous avons les élèves du lycée de Cornouailles, Raphaël, Louise, Lorelai, Lise, Samuel, Maria et Marin. Il s'agit d'un plateau très jeune mais tout autant intéressé par le cinéma et ses technicités. L'émission se déroule en quatre parties pensées par les lycéens et lycéennes avec des invités variés. Nous discuterons tout d'abord avec Steven Corvet et Sylvain Elio de l'intervention de l'intelligence artificielle dans la musique de film, puis avec Julie Rouet de la composition d'une bande originale. Suite à une interlude musicale qui viendra clore ce premier chapitre en mouvement, nous retrouverons Judith Beauvalet pour parler fin du monde et pour finir en beauté, Isabelle Lenoble viendra nous parler de sa série Douce. Radio U au kiff, c'est maintenant. Bonjour Julie Rouet.
Bonjour.
Vous allez nous parler de votre expérience car vous avez notamment travaillé sur le film Bis Repetita d'Émilie Noblet ou encore Fragile d'Emma Benestan entre autres. On peut les voir cette semaine au Festival du Kif et pour cette deuxième interview, nous sommes accompagnés de Lorelai et Lise qui vous ont préparé quelques questions. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Tout d'abord, vous êtes invitée d'honneur du festival et c'est très compréhensible vu l'extensibilité de votre travail et la reconnaissance. Bravo, toutes mes félicitations. Nous voulions aujourd'hui vous parler du film Bis Repetita qui vient d'être projeté du coup au cinéma 14A. On en sort tout juste. Vous avez travaillé combien de temps sur la BO du film ?
Waouh, question piège. parce qu'en fait, le travail sur la BO, il commence même avant le tournage. Donc okay. ça s'étend sur des mois, mais évidemment pas à plein temps. Mm-hmm. Donc si j'essaye de compter du début à la fin, ça doit faire 6-7 mois.
Ah ouais, donc c'est vraiment un long travail.
Ouais,
et vous travaillez toujours autant de temps sur les productions comme ça ?
Oui, franchement, oui. Ça m'arrive assez peu qu'on m'appelle à la toute fin, même si je sais que ça arrive à certains collègues. Moi, pas trop. Mais okay. Parce que j'aime bien ça. Hein. J'aime bien m'investir dès le début, comprendre tous les enjeux du film.
Mmh. C'était comment de travailler avec Émilie Noblet ?
Émilie Noblet, c'est quelqu'un que je connais depuis une dizaine d'années. On est très amis. Donc, c'est toujours un grand bonheur parce que j'aime beaucoup son cinéma et qu'on commence à se connaître. On a fait ensemble la série HP, la série Parlement, la série Zorro. Et que Bis Repetita, c'était son premier film de cinéma. Mais c'est un peu la continuité de tout ce qu'on a fait avant. Donc, il y a une relation de confiance, il y a quelque chose où en fait, je vais proposer. Elle sait quand elle aime pas, mais la plupart du temps, elle est quand même très curieuse de mes propositions et elle les accueille avec beaucoup de joie. Donc honnêtement, c'est une relation de travail que je trouve géniale quoi, qui est au long cours.
Et il y a une routine de travail peut-être qui s'installe à force de travailler comme ça avec la même personne. Peut-être est-ce que vous sentez que la musique, elle peut arriver parfois, la composition peut arriver peut-être parfois avant même son travail. Est-ce qu'elles vont se mélanger aussi dans l'écriture ?
Ah bah, complètement. Dans le sens où l'écriture, en fait, elle se termine au montage. Mmh. Moi, je suis pas là au moment du scénario, mais il y a des morceaux que je peux écrire avant le tournage, des petites choses qui vont un peu servir pendant le tournage. Mais le montage, c'est une réécriture du film. C'est un moment où on se rend compte que, bah, tiens, si on mettait cette séquence-là, si on mettait la séquence 15 en tout début, bah, en fait, c'est une meilleure introduction dans le film. Et il se trouve que peut-être que la séquence 15 au début du film, ça ne marche que parce que, avec la musique, il se passe un truc. Donc c'est vraiment une interaction entre moi, Émilie, donc la réalisatrice, et sa monteuse Clémence Carré, qui fait qu'on arrive à cette alchimie-là. Et de la même façon, moi je suis très force de proposition, j'envoie beaucoup de musique, mais après, au montage, elles vont tester les trucs sans moi. Elles vont décider de placer une musique à tel endroit, de la couper là. Et moi, je reçois ça et je rebondis sur, sur ce qu'elles auront fait.
Ouais, donc il y a vraiment une communication et un échange. C'est assez intéressant. Parce que, aussi, moi, ce que j'imagine, c'est que la formation d'une scène, elle peut complètement se transformer. Ce serait comme avoir plein de petits post-it au final et les coller les uns à côté des autres, voir « Ah, celui-là, il marcherait peut-être mieux avec lui » ou...
Alors c'est marrant parce que justement au montage ils ont souvent pas des post-it mais en fait une image représentant chaque scène collée avec de la pâte à fixe au mur et en fait ils réinventent le film comme ça en faisant bouger les images en disant ah si cette séquence 74 on la mettait plutôt entre la 52 et la 54 et donc l'image elle est super. Et la musique, c'est la même chose, en fait. Moi, j'envoie des fichiers musicaux qui sont placés sur... Là, je vais être un peu technique, sur la timeline, mais vous avez la même chose en radio, hein,
ouais.
Qui sont placés sur la timeline, et c'est pas moi qui les place, en fait. Donc, c'est de la matière. La musique que j'envoie, c'est de la matière. Si ça se trouve, toute la première minute de mon morceau va se retrouver évacuée, et puis la monteuse va décider qu'entre la minute 1 et la minute 1:20, bah, ça l'intéresse, et elle va utiliser que ça... Voilà, on fait de la tapisserie en fait. Hein.
Je vais laisser la parole à Lorelai et Lise pour vous poser quelques questions.
Oui, alors je voulais revenir un peu sur votre parcours parce que souvent quand on pense au cinéma, on pense avant tout aux réalisateurs, aux acteurs. Mais du coup, comment vous avez été amenée à devenir compositrice?
Ah, c'est une question qui a une réponse en plusieurs volets. Moi, je pense que quand j'avais votre âge, j'avais envie d'être chanteuse. J'avais envie d'être musicienne, mais c'était pas du tout un truc qui existait dans mon entourage, en fait. C'était pas un métier possible. Donc, j'ai complètement évacué ça de mon imaginaire. Et du coup, je suis devenue ingénieure du son. Mais pour devenir ingénieure du son, j'ai fait une école de cinéma. Et en fait, c'est comme ça que j'ai rencontré des gens qui faisaient du cinéma et que, un peu, enfin, vraiment par hasard, je me suis retrouvée à faire des petites musiques pour leurs petits exercices de cinéma. Et comme ça, de fil en aiguille, je me suis un peu prise au jeu et je me suis mise à faire de la musique à l'image. Ce qui était un truc, en fait, assez confortable pour quelqu'un d'un peu introverti, parce que sinon, devenir musicienne, c'est hyper inhibant, ça veut dire jouer devant des gens. Alors qu'en fait, en faisant de la musique de film, bah, je peux être chez moi, bidouiller mes trucs, me planter, personne ne me voit, et je n'en vois le résultat que quand il est bien, que quand il est terminé.
Mais oh pardon, je coupe parce que c'est marrant, j'ai cru voir sur internet que vous jouez maintenant de temps en temps en tant que DJ. C'est le cas ou je me suis complètement trompée dans mes informations?
Je suis pas DJ mais je chante.
Vous chantez.
Et c'est marrant parce que c'est vraiment la musique de film qui m'a un peu donné cette confiance que j'ai maintenant qui me permet à un âge, disons plus avancé, de me présenter sur scène devant un public. Mais à 20 ans, j'aurais jamais osé.
Et du coup, vous faites comment vous composez? Vous composez de A à Z ou par exemple vous collaborez avec d'autres personnes ou c'est vous qui jouez les instruments, etc.
Eh ben, je compose tout, c'est-à-dire que je maquette. Donc j'ai en fait un clavier avec lequel je joue de plein d'instruments. Je peux choisir si ce clavier il va jouer de la flûte, de la trompette, de la contrebasse, de la batterie. Je fais tout. Et j'enregistre d'abord la partie de batterie, la partie de contrebasse. Je disais que c'était de la bidouille, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment, ah tiens, j'ai une idée là, ok, je vais rajouter ça par-dessus, non, ça marche pas, j'efface. Et à la toute fin, on enregistre avec des vrais musiciens. Donc il y a parfois des choses qui restent de ma version à moi. Des fois, les pianos, c'est moi qui les joue. Mais je suis pas une très bonne interprète. Et ça, c'est aussi... Le truc génial dans ce métier, c'est ce moment où on arrive en studio avec les interprètes et que la musique, elle prend une autre dimension parce que c'est joué par des gens qui jouent trop bien.
Et est-ce que vous travaillez beaucoup du coup avec des instruments de musique ou ce sera beaucoup sur votre ordinateur?
J'ai beaucoup travaillé avec des instruments virtuels parce qu'en fait, il faut avoir de la place pour avoir des vrais instruments. Il faut avoir de la place, il faut avoir de l'argent. Et les instruments virtuels, ça fait un peu tout. Et maintenant, je commence à essayer de m'équiper de vrais instruments. Récemment, j'ai acheté une guitare électrique, une basse et un vrai synthé aussi. C'est génial, en fait, de pousser un bouton et que ça fasse du son et pas seulement des trucs virtuels.
Ça change tout.
Ça change tout, hein. Mais ça vient petit à petit.
Moi, j'avais une question aussi. Est-ce qu'il y a un style de musique qui revient très souvent dans vos compositions?
Ah, c'est une bonne question. Parce que Je suis assez caméléon, en fait. Je fais, vous avez vu Bes Repetita tout à l'heure, c'est du jazz. C'était la première fois que je faisais ça de ma vie. Je viens pas du tout du jazz. Bon, je tente le coup. Je fais de la musique électronique. Je fais aussi des musiques beaucoup plus classiques, dans le sens à écrire des cordes. Et en fait, pour répondre à cette question, il faut prendre un petit détour. C'est-à-dire que je me suis demandé à un moment quelle était la musique, en fait, qui était vraiment moi. Parce qu'à force d'exaucer les désirs des autres, je savais pas si moi j'avais vraiment un truc à dire. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris quelques semaines en me disant, est-ce que j'ai moi une musique à écrire? Et ce qui est sorti à ce moment-là, en fait, c'était des chansons. Donc comme quoi, j'étais toujours reliée à l'adolescente que j'avais été. Des chansons très électropop. Et en fait, voilà, je pense que la musique, disons, de mon cœur, c'est de la pop. Moi, j'ai été nourrie de pop et je pense que ça se sent quand on écoute ma musique, même quand on écoute mon jazz. Et donc ça, c'est ce à quoi j'aime bien revenir. Mais ce qui est génial en musique de film, c'est que un réalisateur ou une réalisatrice va me faire aller dans une direction hyper éloignée de ce vers quoi j'irais naturellement, et que ça va nourrir aussi ma pop à un moment, en retour.
Vous diriez que vous avez quoi comme référence pop principale?
Alors moi, le son que j'ai beaucoup écouté ces dernières années, c'est Charlotte Adigéry et Bolis Peuple, trop bien.
Absolument.
Sinon, j'étais une grande fan de Jeanne Adède.
Ah ouais.
Et Billie Eilish, pour moi, c'est la queen, quoi. J'adore ses prods.
Comment ne pas?
Ouais, voilà.
Et puis, elle travaille avec son frère aussi.
Oui, les prods, c'est surtout lui. Hein.
Mais le travail de duo, c'est intéressant de le soulever, parce que c'est vrai que là, on parle beaucoup de vous qui faites tout vous-même, même si au final, après, ça va aller jouer. Mais au niveau de la musique, est-ce que ça vous arrive de travailler à deux sur la même musique d'un film?
Ça m'est arrivé sur Parlement. Avec un compositeur qui s'appelle François Clos. Et dans ce cas-là, ce qui est génial, c'est qu'avec François, on se connaît très bien, en fait. On a fait beaucoup de musique de pub ensemble. Donc on se connaît bien, on sait interagir et on fait vraiment la musique ensemble. Il y en a un qui fait une première passe, qui envoie le morceau à l'autre, qui va rajouter, changer des trucs. Mais ça demande quand même une confiance une habitude de travailler ensemble assez profonde. Donc je ferai pas ça avec n'importe qui.
Ouais, c'est sûr. Il faut bien choisir la personne avec qui on travaille.
Est-ce que aussi c'est difficile de faire sa place dans ce milieu-là? Comment ça s'est amené à ça?
C'est ce qu'il y a de plus difficile, en fait, parce que évidemment, c'est un milieu, enfin, tout le monde a envie de faire ces métiers-là. Je vais pas essayer de vous en dissuader, c'est trop bien, en fait, hein. Mais les places sont un peu rares et c'est beaucoup, beaucoup d'années à faire ce métier sans gagner sa vie. Et à essayer de trouver d'autres moyens de gagner sa vie. Et c'est vraiment la persévérance qui fait qu'à un moment, il va se passer un truc. En fait, moi, ce que je dis quand j'ai l'occasion de parler avec des personnes plus jeunes et qui veulent faire ce métier, c'est rencontrer votre famille de cinéma, rencontrer votre génération. Et ça veut dire commencer par faire des courts-métrages, par faire des projets un peu bricolés, avec une petite caméra, on sait qu'on fait pas un film qui va passer au cinéma, mais en fait, tout le monde s'entraîne, tout le monde grandit en même temps, et à un moment, peut-être que cette personne-là va se mettre à passer au long métrage. Moi, j'ai comme ça misé sur plusieurs personnes, hein, parce que ça marche pas à tous les coups. Et effectivement, c'est comme ça que certaines personnes avec qui j'avais fait des courts-métrages sont passées au long-métrage.
Notre émission spéciale continue sur Radio U depuis le Kif. On se retrouve juste après une pause musicale avec Etc., extrait de la BO du film Bis Repetita d'Émilie Noblet. Un morceau de rap en latin. Comment s'est passée la composition de cet instru pas banal, Julie?
Ah oui, en fait, donc c'est Xavier Lacaille qui est un des acteurs du film qui chante. Et l'histoire de cette chanson, elle est marrante parce que il y a une scène dans le film, à la fin du film, où il y a un des acteurs du film qui doit slammer. Et il avait un peu de mal à trouver un flow. Et Xavier Lacaille, à ce moment-là, lui a fait une démo. Et lui, il a fait un truc de dingue. Il a pris ce texte en latin, il l'a slamé et il avait un vrai flow, quoi.
Ouais, ça marche très bien.
Et moi, j'ai entendu. Alors, c'est pas le texte de cette chanson-là. Et j'ai entendu un enregistrement de Xavier faisant ça. Je me suis dit, trop bien, on va faire la chanson de générique de fin avec Xavier qui rappe. Et donc, j'ai fait cet instrumental. J'avais fait une démo. C'était moi qui chantais avec un texte de Lucrèce. En latin, donc j'avais sélectionné les passages qui me semblaient un peu plus rythmiques, plus faciles à chanter. Et après, on a enregistré la version de Xavier dans mon salon un matin.
Julie Rouet, merci pour toutes ces précieuses réponses. Bis Repetita. Ouais.
Rodolphe, Kania, C-A-G-N-A-T, Adwitam, Delphine Fiat. Nunku Fiat, Uti Passus, Proféré, Kouyamous, Tumwolumous, Warikwe Datum, Sit Membra Mwere, Et Kouyres Tantum, Ok Oneris, Protudere Nostri Corporis, Insuerit, Dicam, Am, Tout Perkipe Dicta, etc. Dico Animo Nostro, Primum, Simulacra Meandi, Accidere Adque Animum, Pulsare Odiximus, Ante, Ante. Inde Voluntas Fit, Neque Enim Facere Incipit, Ulam Rem Quisquam, Mens Fruid Whip Quid Wellit, Ante Id Quod Puidet, Ilvis Reg Constat Imago, We. Ouais. Nunc quic fiat uti passus, proferi queamus, cum volumus, varique datum, sit membra muere, et quae restantum hoc oneris, rotudere nostri, corporis insuerit, dica. Et cetera, ergo animus cum sese ita, como et ut velit ire in quo grediferit extemplo qua e in corpore toto 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 per membra aque artus animae dicita uis est et facil est factu quonia coniuncta tenetur ur inde ea proporo corpus ferit atque ita tota paula simoles produtitur atque muetur Literatum rareski, quoque corpus et aerit, scilicet ut debet qui, per parte facta venit.
Info locale.
On continue ce plateau avec une interview sur l'intelligence artificielle dans la musique de film. Bonjour à nos deux invités, Steven Corvez et Sylvain Héliot.
Bonjour.
Pour cette première interview, je suis accompagnée de Louise et Raphaël. Bonjour.
Bonjour.
Steven et Sylvain, vous sortez d'une table ronde sur l'intelligence artificielle dans la musique de film. C'est un sujet assez passionnant en tant qu'artiste. L'arrivée de l'IA peut faire ressortir toutes sortes d'émotions, généralement assez négatives. On va commencer avec les questions de Raphaël et Louise.
Donc, pour commencer, très simplement, pouvez-vous présenter vos métiers, qui vous êtes et comment vos métiers sont impactés par l'IA ?
Oula, c'est une très vaste question, parce qu'il y a plusieurs questions. Du coup, moi, je suis Steven Corvez, je suis compositeur de musique à l'image, je suis formateur, hein, je forme les musiciens ou les danseurs, voilà, toutes les compétences liées à la musique. Comment l'IA impacte nos métiers, c'est encore très difficile à dire. C'est un peu l'objet de la table ronde de tout à l'heure. C'est déjà savoir à quel niveau ça se situe, où est-ce que l'IA intervient dans les outils ou dans la création elle-même de l'œuvre musicale.
Donc moi je suis Sylvain Héliot, donc compositeur de musique à l'image aussi, principalement pour le jeu vidéo et d'autres formats plus pour l'édition, histoire audio ou théâtre ou des choses comme ça. Donc dans l'impact de l'IA aujourd'hui dans la composition de musique pour ce qui me concerne, il est quasi nul. De mon point de vue, a priori, je dis a priori parce que c'est tout à fait possible que le marché, en tout cas de la composition de la musique, soit impacté. Pour l'instant, je ne pense pas que ça m'impacte réellement. Mais c'est possible. Et d'un point de vue personnel, dans la création, je l'utilise très peu, juste pour essayer, pour voir un petit peu, comme une veille en fait, pour essayer de faire voir un peu ce qui se fait et comment les choses avancent. Après, il y a quand même deux choses différentes. Il y a l'IA générative, donc où on compose des musiques, et il y a aussi les outils d'IA qui sont une aide d'un point de vue technique à la création, enfin pas vraiment à la création, mais plutôt que ça va servir pour le mixage, pour le mastering, des choses comme ça. Pour l'instant, je l'utilise les outils techniques, je les utilise très très peu. Parce que je sais pas trop ce que ça fait, donc je reste encore un petit peu à distance de ça, même si c'est assez impressionnant. Et après, d'un point de vue musique générative, je regarde un petit peu ce qui se fait, mais je pratique pas réellement.
Le site d'Arte a rendu disponible la série Twin Peaks récemment, ainsi comme beaucoup, je suis retournée la voir avec plaisir. Et je vous en parle car la musique dans Twin Peaks est vraiment mémorable. Voici un extrait. J'ai vu une interview du compositeur Angelo Badalamenti qui a créé le thème de la série et dans laquelle il explique le chemin émotionnel qu'il dessine note par note. Pour vous, quel est le rôle premier de la musique au cinéma ?
Le rôle premier, c'est de produire de l'émotion, d'accompagner, en fait, d'aller dans les interstices de la narration où parfois l'image ne peut pas aller. Et donc ça rajoute un complément. C'est un complément à l'image et donc ça va pouvoir par exemple raconter l'émotion qu'éprouve un personnage, ça va pouvoir aussi donner des informations sur des choses qui seraient hors champ, à l'écran ou des choses comme ça. Voilà, c'est vraiment pour moi une espèce de complément émotionnel et fonctionnel aussi. Voilà, et là on a un bon exemple de musique. C'est un très bon choix parce que c'est vraiment une musique qui donne une identité a priori pas évidente. C'est un thème qui sort un peu de nulle part, tout simple à la guitare comme ça, mais qui a marqué les esprits, en tout cas notre génération, et je vois les vôtres aujourd'hui, donc je suis content que ça,
ouais,
ça le fasse aussi, quoi. C'est vraiment super.
Ça apporte un point de vue en fait différent. C'est vraiment, comme tu dis, c'est par rapport à la narration. Quand on raconte une histoire, quand on raconte quelque chose, ça vient explorer la manière dont c'est raconté en permettant au spectateur, à la personne qui voit ce qui se passe, ça lui permet de voir les choses autrement et parfois de mieux comprendre. Mais c'est pas forcément quelque chose qui est facilement, qu'on peut dire facilement ou qu'on peut expliquer facilement. On parle de l'émotion, mais c'est pas simplement une émotion simple, une émotion identifiable facilement. C'est un cheminement de l'émotion, et donc la musique, elle apporte ce parcours émotionnel qui est parfois pas identifiable, parfois c'est très subtil, parfois on s'en rend compte qu'après, et l'impact de la musique peut parfois n'être vraiment visible, ou enfin on ne peut en avoir conscience qu'une fois le film achevé. Et c'est ce qui se passe parfois quand on voit l'écran de fin d'un film ou d'une série ou peu importe, mais quand on voit l'écran de fin, c'est à ce moment-là que la musique ou que le thème prend son ampleur, c'est-à-dire que c'est une prise de conscience a posteriori, du coup, c'est-à-dire qui arrive seulement à la fin du film, c'est-à-dire que tout ce qui s'est passé, tout ce que la musique a apporté, elle l'a pas dite directement, et c'est simplement à la fin, une fois que le film est terminé, une fois qu'on a compris comment ça s'est passé, une fois qu'on a, ou pas d'ailleurs, parce qu'on a des fins ouvertes, mais même quand la fin est ouverte, ça apporte quelque chose, et c'est simplement à ce moment-là qu'on comprend ce que la musique a apporté, mais une compréhension qui est parfois juste émotionnelle, comme on disait tout à l'heure, mais qui est pas forcément explicable, mais qui est en tout cas qui existe et qu'on apprend à faire grandir. C'est une progression en fait.
Mais alors, est-ce que vous pensez possible pour l'intelligence artificielle de relater ces émotions et de réussir à créer tout ce parcours et tout ce chemin par elle-même?
Déjà, l'intelligence artificielle ne travaille pas toute seule, donc elle va travailler à partir d'une instruction d'un humain. Alors ça pourrait être le réalisateur ou le compositeur s'il ne veut pas s'embêter à la tâche. Et donc oui, techniquement, c'est possible, tant que l'instruction donnée correspond à... Enfin, tant que le résultat correspond à l'instruction donnée, elle pourra, la musique pourra faire le même travail. Après, quand on élabore une musique pour une œuvre visuelle, on est souvent dans un échange, une petite aventure en fait humaine et artistique où des propositions parfois inattendues vont éclore, qui vont pimenter complètement les images. Et ça, tant qu'il y aura une relation compositeur-réalisateur, on arrivera à préserver ça. Si le compositeur utilise un petit peu d'IA pour travailler, ça sera, voilà, on préservera cette idée de voyage humain, quoi. Mais si c'est le réalisateur lui-même qui décide de produire des musiques, là je pense qu'on va donner une forme d'impasse, quoi. Parce qu'il va être en circuit fermé, quoi. Enfin, pour moi, ça risque d'être inopérant, enfin, en tout cas sec, aride, quoi. Il y a besoin, je pense, d'un échange. Après, je dis ça, il y a des contre-exemples. Si on prend les musiques des films de Carpenter, étaient faites souvent par Carpenter, donc il faisait la musique de son propre film. Mais il y avait quand même une aventure. Il faisait jouer des musiciens. Il y avait quand même un... Et le problème de l'IA, c'est que malgré tout, elle fonctionne, elle se dirige dans une espèce de norme. Donc il y a peu de chances qu'on arrive à la musique qu'on a écoutée de Twin Peaks de Badalamenti, là, parce que c'est des propositions justement que l'IA ne peut pas faire, des propositions qui sont hors cadre. Et l'IA, ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle cherche en tout cas, c'est trouver un peu le plus commun. Elle va vers le plus commun.
Justement, à propos de ça, je me posais la question, si l'IA est basée sur une masse de données, ne risque-t-elle pas de basculer vers un stéréotype continu de la musique par rapport à différents styles ? Et ce ne serait pas justement le compositeur qui pourrait ouvrir ça ?
Mais en fait, c'est déjà le cas. C'est-à-dire que de fait, la musique qui est générée, du moins si c'est la musique qui est générée de A à Z par l'IA, est déjà une musique qui correspond à des stéréotypes, puisque un stéréotype par essence c'est ce qui fait émerger les traits les plus saillants de quelque chose, peu importe ce que c'est. Mais et ici, quand on lance un prompt pour créer une musique, que ça soit pour accompagner un film ou autre chose, l'IA va statistiquement aller chercher en fait des éléments de la matière où ces traits sont les plus saillants et où ils apparaissent le plus. Donc de fait, c'est quasiment déjà un stéréotype qu'on a.
Oui, c'est tout à fait ça. On est déjà dans une espèce de normification, je ne sais pas si le mot existe, de la musique, musique de film en tout cas. Mais c'est lié aux outils de production, enfin à la production audiovisuelle aujourd'hui. On voit bien de plus en plus à une époque où, l'époque de Twin Peaks, on faisait une série, je sais pas, il y avait peut-être 3-4 séries de ce genre-là. En tout cas, il y en avait qu'une tous les 10 ans, quoi. C'était assez particulier. Et là, aujourd'hui, on a une série quasiment tous les 3 jours qui apparaît. Donc il y a un besoin de fournir de la masse de scénarios, de décors, de musique, de choses qui font qu'on... On se pose pas trop la question de savoir qu'est-ce qui pourrait être fait autrement. On se pose la question, c'est de qu'est-ce qu'on doit faire. Et donc on arrive à des standards. Et ça fait déjà pas mal de temps que c'est comme ça, quoi. La musique de film, pour resituer un petit peu, il y a eu la grande époque quand même des... qu'on pourrait appeler de moderne, des musiques de films avec des grands thèmes type Star Wars, type les films de Sergio Leone, tout ça. Il y avait un soin apporté il y avait une dimension très particulière de la musique, elle avait un impact très très fort. Depuis à peu près les années 90, hein, je caricature vraiment, mais évidemment, mais il y a quand même le sound design et le bruitage ont pris un peu le pas sur l'expression musicale en fait dans les films. Et aujourd'hui, on a plus presque de une bande sonore illustrative typée sound design, typée ambiance, et au détriment de la musique, qui est un peu une espèce de, voilà, il faut une musique un peu stressante pour les moments tendus du film, il va y avoir une musique un petit peu joyeuse, type drama-comédie, avec des petits pizzicato, voilà, on arrive un peu voilà, dans les standards, mais où il n'y a plus vraiment de thème développé, il n'y a plus vraiment d'identité forte proposée, quoi.
Et c'est là que l'IA, en fait, n'est pas une rupture, en fait, du moins dans de ce point de vue-là, hein. L'IA n'est pas une rupture, en fait, c'est que la continuité de quelque chose, d'une dynamique qui avait déjà commencé, une dynamique de normalisation qui est liée à ce que tu disais sur la production de masse. On doit produire beaucoup et on a besoin d'avoir des choses normées, des musiques normées qui correspondent à des intentions très prévisibles. En fait, il y a aussi l'idée que la musique normée, la musique faite par IA a aussi cet aspect très prévisible. Alors, on ne va pas forcément deviner exactement comment va se comporter la musique, mais elle reste prévisible dans les intentions qu'on y met derrière. Et donc c'est pour ça que c'est aussi une continuité par rapport à une dynamique qui était déjà en cours.
Quand on pose le débat, on s'en remet souvent à l'histoire, aux innovations du passé, comme par exemple les synthétiseurs. Et du coup, on peut se demander, est-ce que l'IA, c'est si menaçant que ça? Et est-ce que ce ne serait pas juste une forme de robot synthé?
Oh, c'est une question. Vas-y, je te laisse si tu as une intuition là-dessus.
C'est toujours l'impact et c'est toujours de qu'est-ce qu'on veut faire de cet outil. En fait, la comparaison, elle ne marche qu'une fois qu'on sait l'usage qu'on en fait. C'est-à-dire le synthé, quand il est arrivé, il ne faut pas oublier la manière dont on l'utilise. On a le synthé à ce site particulier qu'on a un impact très fort sur tous les paramètres du son. C'est-à-dire que le son, c'est d'abord une oscillation électrique. Et ensuite, on va venir appliquer des filtres. Et rien que la création du son lui-même, l'intervention de l'humain, elle est presque aussi importante, voire plus importante que sur un instrument déjà fabriqué par un luthier, etc. Donc l'impact de l'humain là-dedans, il est déjà énorme. Et ce qui se passe avec le synthétiseur aussi, c'est que la création sonore avec le synthétiseur, avec le son, va venir du travail de la matière. De la matière sonore. Et c'est vraiment cette main, cette possibilité pour l'humain de travailler le son. C'est pour ça que le synthétiseur, en fait, il est utilisé par les compositeurs, y compris en musique, ce qu'on appelle la musique savante, ce qu'on appelle abusivement la musique classique, mais la musique savante, c'est utilisé depuis très très longtemps parce que justement, on a cette main à ce contrôle sur ça. L'IA pose la question différemment. C'est-à-dire qu'on sait qu'on ne va pas avoir forcément le contrôle sur la matière sonore directement, en tout cas intuitivement. Après, il y a sur un prompt simple. Après, justement, c'est là que c'est un peu qu'on ne peut pas vraiment donner de réponse à ça pour l'instant. C'est que il y a aussi toute une exploitation de l'IA qui va être faite de manière expérimentale, mais sur des domaines auxquels on est peut-être moins habitué, sur le son lui-même, sur la production même du son. L'IA pourrait très bien servir à générer dans un synthétiseur l'oscillation de base à partir de laquelle on va venir appliquer, sur laquelle on va venir appliquer des filtres, etc. Donc l'IA, la question se pose. Pose pas en ces termes, quoi, pour moi.
Moi, j'ajouterais que, malgré tout, donc c'est un peu l'idée du filtre, c'est intéressante, parce que l'humain sera toujours, a priori, le filtre à cette technique-là. Et non, si on prend le problème de l'IA, enfin, le sujet de l'IA, quelque part, tout ça peut bien se passer tant que l'humain reste le filtre de la création. C'est-à-dire que, dans le prompt, il va pouvoir dire des choses, orienter l'IA de manière à faire en sorte que la dose suffisante d'humanité puisse entrer en jeu dans l'histoire. Donc moi, je suis tout à fait... Je pourrais être confiant sur le fait que finalement, c'est une évolution technologique, technique de l'instrument, que c'est juste un nouvel instrument. Ça peut être une des voies proposées, effectivement. Après, il faut que ça soit fait par des musiciens. Il faut que ça soit fait par des connaisseurs. C'est plus on connaît la question, plus on est capable d'orienter et de filtrer ces choses-là. Le souci qui pourrait poser problème avec l'IA musicale, en tout cas, c'est qu'il peut y avoir un moment donné où ce sont des non-musiciens, donc si c'est un producteur, un réalisateur, qui commence à produire lui-même des éléments sonores sans connaissance, sans science, sans vision, en fait. Et là, on va arriver sur quelque chose de, bah voilà, de normé, de très, très standardisé, sans de choses assez désincarnées et tout ça. Voilà.
C'est surtout, comme tu dis, sans sa vision, puis sans regard critique. En fait, l'idée, c'est le regard critique qu'on pose sur tout ce qu'on produit, peu importe ce que c'est, que ce soit IA ou pas. C'est central, ce regard critique, et qui demande justement d'avoir une certaine expertise ou une certaine maîtrise, en tout cas.
Moi, ça me fait penser à la dead internet théorie, la théorie de l'internet mort, où justement ce serait le fait que les intelligences artificielles sont tellement présentes qu'au final elles se nourrissent d'elles-mêmes et qu'au bout d'un moment il n'y ait plus du tout d'humain sur les plateformes. Et donc de la même manière où vous parlez du fait que de l'importance de l'humain, imaginons qu'une personne décide d'avoir une IA qui se nourrit elle-même comme ça et qui compose en fait elle-même et que limite le film entier soit fait par intelligence artificielle. Enfin, c'est quand même quelque chose de possible et d'imaginable. Et à ce moment-là, on perd absolument toute créativité pour moi. Enfin,
je pense qu'il y aura des humains suffisamment curieux pour pousser la machine à créer par elle-même. Et oui, je pense que ça arrivera. Après, ce qu'on cherche dans une œuvre en général, que ce soit cinématographique, musicale ou quoi, c'est malgré tout rentrer en contact avec un humain, quoi. Enfin, avec une névrose, avec un parcours, avec de la fragilité, c'est en fait ce qui nous pousse à trouver les choses belles. Si on va dans la chapelle Sixtine en Italie, ce qui nous fascine, c'est le fait qu'un humain ait pu produire ça, quoi.
Ouais.
Et que l'imaginer au travail, de l'imaginer qu'il a eu le courage de le faire, qu'il a eu le qu'il soit allé au bout de son projet, c'est ça qui nous intéresse dans toutes les œuvres en général. C'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous passionne, quoi.
Je pense aussi que c'est une question de culture et de point de vue toujours. En fait, c'est une IA se nourrissait d'elle-même et continuait à se nourrir en supposant que ça se dégrade pas, parce que ça, c'est la grande question. C'est-à-dire que on a une détérioration de l'information qui arrivera forcément à un moment ou à un autre. La question, c'est que l'humain va plus se poser va sortir du champ, en fait, pour recréer à côté, c'est-à-dire de toute façon, il se posera plus qu'en tant qu'observateur de ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est ce qui va après attirer le regard, mais en tant qu'observateur. Et il y a une question aussi, si vraiment on amène la spéculation vraiment jusqu'au bout, en imaginant une IA qui n'aurait plus que d'elle-même, qui deviendrait consciente et qui aurait vraiment cet acte de création, ça serait de toute façon une culture spécifique à l'IA. C'est-à-dire que si l'IA devait prendre son envol et être autonome, ça serait une culture de l'IA, de la même manière qu'on a une culture propre à l'IA, c'est-à-dire que l'humain ne peut pas comprendre, la culture de l'IA ne peut pas comprendre forcément où on va commencer à avoir des problèmes de communication entre les humains et l'IA, ça c'est vraiment si on spécule très loin, mais n'empêche que c'est ce qui arriverait probablement, c'est-à-dire qu'il y aurait autant de différences entre l'humain et l'IA qu'il peut y avoir entre l'humain et le chat, c'est-à-dire qu'il y a des cohabitations possibles, mais on est dans une culture différente, dans une communication différente, il y a toujours des ponts possibles, mais on entre vraiment dans une appréhension du monde qui est très différente.
Comme c'est une IA de masse, de normes, de stéréotypes, ouais, elle peut parfois effrayer du coup le grand public qui se dit « Oh, il n'y a plus de création !» Mais c'est dans cet intérêt que vous pourriez ramener à nouveau de l'intérêt sur les compositeurs qui font leur travail.
Oui, moi j'y pense souvent à ça, c'est que... Quand je scroll maintenant sur Instagram et potentiellement je peux imaginer, en fait maintenant je doute de tout le temps de ce que je vois, c'est-à-dire que 50% potentiellement est produit par IA, donc mon intérêt pour parcourir Instagram est vachement diminué, quoi. Tout d'un coup je vais vouloir me rapprocher des choses dont je suis sûr, en fait. Si je suis sûr de parler à quelqu'un, ça m'intéresse beaucoup plus que potentiellement de voir, essayer de déterminer, attends, est-ce que cette vidéo est vraie, est-ce que cette vidéo est fausse, comment je dois l'interpréter, comment je dois l'appréhender, la comprendre. Je pense que là, effectivement, on ne s'y retrouve plus, quoi. Enfin, je pense que du coup, il y aurait besoin d'un label clair qui dise généré par IA, comme ça au moins on sait où on se trouve, quoi. Mais moi, ça me rend un peu confiant sur le fait que devant cette masse de potentiellement faux produits, que les gens finissent par se dire, bah moi, si je vais écouter de la musique, en fait, je préfère aller à un concert, comme ça je vois un vrai gars qui joue de la musique et c'est cool, quoi.
C'est une question d'expérience du monde, en fait. C'est-à-dire qu'on a besoin de percevoir et d'expérimenter aussi ce qu'on voit. On a besoin de pouvoir s'identifier, on a besoin de pouvoir se rapprocher. Et quelque chose qui est entièrement fait par l'IA, en soi, c'est pas vraiment, en soi, dans l'absolu, c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais à quoi ça sera proche de notre expérience du monde? C'est vraiment, pour moi, une question importante par rapport à ce que tu proposais.
Ouais, ça, pour l'instant, c'est toujours impressionnant quand on voit un truc en IA, on est là, ah ouais, dis donc, c'est capable de faire ça, c'est fou, c'est génial. Mais bon, comment ça va être dans 10 ans? Si les gens seront sans doute très lassés, en fait, quelque part. On est déjà arrivé à des niveaux de perfection, que ce soit en production de musique, en production d'images. Qu'est-ce que ça va proposer de nouveau? Alors voilà, je pense que là, du coup, l'humain va devoir re-rentrer dans la matrice et devoir pousser l'IA à faire quelque chose de... Je sais pas. Ça, je pourrais pas dire, sinon je le ferais.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous. C'était très intéressant. Passez une excellente journée.
Merci pour l'invitation. Et pour clore
le sujet sur l'IA, je vais passer la parole à Raphaël qui nous a préparé une interview sur Jane Campion.
Et aujourd'hui, on se retrouve avec
Claudine Lepalec-Maran, enseignante en cinéma,
qui va nous parler de
Jane Campion.
Donc Jane Campion, c'est une réalisatrice néo-zélandaise. Vous ne connaissez rien d'elle, vous ne connaissez aucun film d'elle. Eh bien, cette émission est pour vous. Donc Claudine, d'abord, peux-tu nous présenter en quelques mots cette réalisatrice?
Alors Jane Campion, pour les médias, c'est la réalisatrice de La leçon de piano, 1993, la première Palme d'or à Cannes obtenue par une femme. Mais en fait, c'est un continent cinématographique. C'est une réalisatrice néo-zélandaise, vous disiez. Donc, ça amène au cinéma des paysages qu'on n'avait jamais vus avant, le bush. Ça amène une histoire qu'on ne connaissait pas, vue de France, donc avec les Maoris, la fameuse population de primo-arrivants, avec des tatouages sur le visage, qu'on connaît notamment au rugby. Donc voilà, c'est déjà une géographie particulière. C'est aussi des personnages féminins comme on n'avait jamais vu auparavant. Il y a cette question, aujourd'hui on la formule de la manière du point de vue féminin. Et ce point de vue va très loin, point de vue féminin, dans les films de Jane Campion, puisque c'est pas juste que les femmes sont des personnages principaux, ce sont les voix, parce que c'est un cinéma qui parle beaucoup. C'est aussi un cinéma qui n'a pas de tabou par rapport aux expériences féminines. Et puis, c'est un cinéma très sensuel qui s'interroge sur notre rapport au corps. Et là, ce n'est pas que les femmes, parce que c'est vraiment l'idée que le sale, le propre, le moral, la morale, la religion, la civilisation, bah, ça dépend des civilisations. Elle le sait, parce qu'elle a étudié l'anthropologie. Et ça nous interroge, nous, sur notre rapport à la famille, à l'hétérosexualité, à l'art et au désir en général.
C'est donc un cinéma plutôt politique, non?
Oui, il y a une expression féministe qui dit que tout est politique, mais ce n'est pas politique en termes de gouvernement. C'est-à-dire que dans ces films, on n'en sait pas plus sur la Deuxième Guerre mondiale. La manière dont, par exemple, les personnages dans Un ange à ma table l'évitent est très intéressante. Elle n'a pas envie de l'épique, elle n'a pas envie de film de guerre. Elle a envie de voir ce qui se passe derrière les portes, comment on éduquait les enfants, comment l'école peut être quelque chose qui enferme, qui humilie, ou quelque chose qui va nous libérer, nous donner des voix de poètes, par exemple. Voilà, donc rien n'est manichéen chez Jane Campion, donc tout est, oui, politique, mais intime.
Question un peu plus personnelle, comment est né votre intérêt pour cette réalisatrice?
Alors moi, clairement, j'avais 15 ans à la sortie de La leçon de piano, 1993, et j'ai été bouleversée parce que comme je suis une femme, j'ai une mère, donc j'avais des relations mère-fille, et à 15 ans, vous saurez tout, j'étais vierge, et du coup, ces deux questions-là d'identité, elle les utilise de manière très très forte, avec des personnages adultes, avec un rapport entre une mère et une fille, et comment on peut avoir peur d'aimer, tout simplement parce que on sait pas faire, on n'a jamais fait. Et je trouve que ces choses qui sont du 20e siècle à la sortie du film, ne seront jamais datées, et elles nous donnent des symboles, des clés. C'est comme un conte, en fait, pour nous parler de notre vie, et pas que pour les femmes.
Que nous apprend la réalisatrice sur la Nouvelle-Zélande?
Elle nous apprend la variété des paysages. Vous me disiez vous-même que vous imaginiez très bien la Nouvelle-Zélande comme des plages de sable noir et comme le bush avec des arbres dont il est difficile de pénétrer. Elle nous montre aussi que, en fait, la Nouvelle-Zélande, c'est une île, donc il y a la mer tout autour, une île qui peut être très forte, mais c'est aussi une île de moutons. Donc elle nous, voilà, elle nous donne envie de lire la littérature et de comprendre qu'il y a plusieurs paysages au sein de la Nouvelle-Zélande.
Pour finir, est-ce que vous conseillerez ces films à un novice complet en cinéma ?
Alors oui, je les conseillerais parce que le cinéma pour moi, c'est des images qu'on n'a jamais vues. Avant Jeanne Campion, on n'avait jamais vu une femme faire du piano à queue sur une plage avec un ange qui tourne autour. Donc rien que cette idée que le cinéma nous donne une autre géographie, mais aussi un autre imaginaire, un imaginaire qui peut faire mal, hein, parce qu'on peut couper des doigts. Donc oui, je le conseille. Et puis, il y a de toute façon toutes ces qualités artistiques en termes de cadrage, quand elle compose, par exemple, les liens entre les personnages comme des liens mimétiques. Elle joue comme ça dans cette idée de mettre les actrices dans les mêmes positions. Ou alors, elle a un montage très particulier. La critique, elle a sorti des films, a tout de suite remarqué qu'elle aimait beaucoup les ellipses, les sauts dans le temps. Et avec beaucoup d'humour, des fois, elle nous fait comprendre des relations entre les personnages en changeant de temps et de lieu en un clin d'œil. Enfin, au cinéma, on dit en une coupe.
Et on remercie Claudine pour cette intervention. Et tout de suite, on va s'écouter un extrait de la BO de la leçon de piano composée par Michael Nyman. Et on se dit à la prochaine. Salut à tous.
C'est vous qui dites.
On retrouve Samuel qui va nous faire une critique du film Blue Heron de Sophie Romvary.
Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de Blue Heron de Sophie Romvary. Vainqueur du prix Swatch au Festival de Locarno en 2025, son film est pourtant méconnu en France. Je ne le connaissais pas avant le Festival Kif, donc ce matin, je suis allé le voir et franchement, j'ai adoré. Avis d'un amateur de gros blockbusters américains, je le recommande fortement à le mettre dans votre liste des films à voir. Et si vous êtes sceptique, laissez-moi 3 minutes pour vous faire changer d'avis. En commençant par son histoire touchante, on y découvre une famille recomposée hongroise qui s'installe sur l'île de Vancouver. Au premier abord, rien ne semble d'anormal. Mais plus on avance, plus on constate des fractures qui subsistent autour de cette famille. On suit en particulier deux personnes. Le fils, Jérémy, présenté comme quelqu'un d'instable, et Sarah, sa sœur, cherchant à comprendre qui est vraiment son frère. Ce récit est filmé comme un documentaire, dans un rythme calme et apaisant. Le jeu d'acteur n'est pas surjoué à la Hollywood. J'ai aussi bien aimé la façon dont c'est filmé. C'est assez original. Chaque action, ou même infime détail, a sa signification. Au final, je trouve que le rendu nous donne l'impression d'être dans la peau des membres de cette famille. Puis ce drame saura vous toucher. De par sa vérité, à travers de vraies photos ou par la relation entre les frères et le reste de la famille, tous ces éléments proviennent de l'histoire de Romvary. On perçoit une quête émotionnelle en lien avec son passé. Le film nous émerge dans ses souvenirs, une introspection qui rend la narration très poignante et fait ressortir notre côté sentimental. Plus intimement, elle aborde aussi les problèmes mentaux des adolescents. Un sujet de société tabou dans les années 90. Une remise en question qui ne nous laisse pas indifférents, offrant un premier long métrage fort dans la continuité de ses autres productions Still Processing ou Nine Behind. Alors qu'attendez-vous ? N'hésitez pas à découvrir l'univers de Sophie Romvary avec Blue Heron. Merci, c'était Samuel.
Merci beaucoup Samuel.
C'est vous qui dites.
L'émission d'info locale.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio U depuis le KIF. Dans ce festival, plusieurs parcours thématiques ont été programmés, dont l'un qui s'intitule « Le jour où tout s'arrêtera ». Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Judith Beauvallet, critique et chroniqueuse cinéma. Bonjour Judith, merci d'être avec nous.
Bonjour, merci de me recevoir.
Autour de la table, nous sommes rejoints par Maria et Marin. Bonjour à vous.
Bonjour.
Judith, vous êtes journaliste pour Écran Large, où vous écrivez régulièrement sur l'actualité du cinéma. Vous êtes également à l'origine de la chaîne YouTube Demoiselles d'Horreur, un espace de réflexion consacré notamment au cinéma de genre et à la place des femmes à l'écran comme derrière la caméra. Est-ce qu'on écoute un extrait ?
Ma foi.
Alors écoutez, ce soir donc on va parler de trois films parce que c'est vrai que comme j'avais pas beaucoup de créneaux pour streamer entre les cartons et que pour le coup on a eu un été, enfin on a un été qui est riche en films d'horreur, j'ai décidé de finalement leur consacrer un long stream à tous les trois en même temps plutôt que de faire des streams séparés et de risquer de devoir en sauter un ou deux. Donc c'est pour ça que ce soir nous allons parler de Substitution, de Évanouie et de Together, donc festival des titres français pourris, hein, donc parce que Substitution c'est Bring Her Back si vous les connaissez plus sous leur nom, leur titre en VO. Évanouie c'est Weapons et Together bon c'est Together.
Bah déjà merci pour la conférence, c'était très intéressant.
Merci à vous.
Et bah moi je voulais savoir vu que vous avez gardé tout le long de la conférence un prisme philosophique, j'ai l'impression beaucoup de références philosophiques etc. Du coup c'est pour savoir d'où il vient ce prisme philosophique et en quoi c'est pertinent de l'utiliser pour la question qui était posée.
Moi, c'est une facilité. Alors, j'ai pas fait d'études spécifiquement de philosophie. Je c'est pas un domaine que je maîtrise particulièrement, mais c'est vrai que j'ai quand même grandi dans une famille avec un père qui était absolument passionné de philosophie et qui en autour de enfin sa vie tournait autour de ça. Et j'ai quand même fait des études littéraires dans laquelle la philosophie avait une certaine place. Donc aujourd'hui, c'est assez naturel pour moi d'avoir le réflexe d'étudier les choses à travers un prisme qui a au moins une teinte, au moins une connotation philosophique. Et c'est vrai que en fait, la philosophie permet toujours d'élargir. En fait, quand vous parlez d'un art, que ce soit le cinéma ou de n'importe quel sujet, souvent, enfin tout le temps, en fait, il y a toujours un philosophe ou plusieurs qui ont pensé les choses de manière extrêmement intéressante avant vous, et que ce soit pour vous placer dans la continuité de ce qu'ils ont dit ou en contraire en opposition, en général, leur pensée permet d'élargir de façon très intéressante un peu n'importe quel sujet.
J'aimerais revenir sur votre parcours parce que c'est vrai que j'ai lu que vous aviez d'abord étudié la littérature et puis vous venez de le redire, vous êtes intéressé à la réalisation et puis vous êtes tourné vers l'analyse et la critique. Qu'est-ce qui vous a mené à la critique? C'était quoi?
Le but, ça a toujours été la réalisation. En fait, moi, je fais partie des critiques qui, comme beaucoup de critiques, en fait, critiquent en attendant de réaliser, en espérant qu'on y arrivera un jour, on y arrivera ou pas. Le but, voilà, pour moi, ça a toujours été de faire du cinéma plutôt que d'en parler. Les études de littérature, c'était plutôt pour rassurer mes parents, c'est plutôt eux qui voulaient que je les fasse. Et en fait, ouais, le truc, c'est que j'ai fait des études de cinéma dans un premier temps pour faire un petit peu mes armes. Et ensuite, la critique, j'aime beaucoup ça, ça m'intéresse énormément et c'est une manière de me maintenir dans un discours autour du cinéma en attendant de pouvoir moi davantage développer mes projets personnels. Mais on va pas se mentir, c'est aussi une manière de manger en fait en attendant ouais. De pouvoir faire mes propres projets. Ça c'est souvent le cas dans ces métiers-là. Il faut réussir à jongler, trouver un métier à la fois qui nous passionne mais qui soit pas non plus la finalité de ce qu'on veut faire en tant que l'artiste qu'on se rêve d'être quoi.
Bien, bah ça c'est une conversation que j'ai eue maintes fois moi-même en tant qu'artiste. C'est quelque chose de très présent, donc je peux complètement l'entendre. Ceci n'empêche, la critique, c'est vrai que moi, j'ai un petit peu regardé ce que vous faisiez et ce que vous avez pu dire. C'est hyper intéressant et vous faites quand même un choix dans votre travail par rapport à de qui vous parlez et d'où vous venez. Vous allez dans une niche du cinéma de genre et de l'horreur pour parler beaucoup d'un point de vue féministe quand même. Ce choix-là, il s'est quand même fait consciemment. Vous ne parlez pas de tout et n'importe quoi. Qu'est-ce qui vous a peut-être amené à aller plus vers ça? Est-ce que vous avez envie de faire des films d'horreur dans la réalisation plus tard, peut-être?
Oui, bah, je le fais déjà d'ailleurs en court-métrage. Et à l'écrit, je raconte aussi des histoires d'horreur dans un podcast qui s'appelle Les Nuits Rampantes, où j'écris des petites fictions courtes avec le reste de l'équipe qui sont aussi horrifiques. Donc pour moi, l'horreur, ça a toujours été une préférence. J'aime tous les types de cinéma et j'aime parler de tous les petits types de cinéma. Mais c'est vrai que l'horreur, c'est ma pente naturelle, on va dire. Et en fait, en tant que spectatrice qui a toujours aimé les films d'horreur, même petite, j'ai toujours été un peu confrontée à un discours pétri de clichés qui dit que en fait les films d'horreur sont pas trop pour les femmes parce que les femmes sont moins portées vers les représentations violentes, des représentations dérangeantes, que dans les films d'horreur elles sont en général de la chair à pâté pour le tueur. Tout ça est absolument faux. L'horreur est l'un des genres dans lequel on retrouve le plus de public féminin. C'est aussi le genre dans lequel il y a une majorité de personnages féminins. C'est l'un des seuls genres, peut-être même le seul genre en fonction des années. L'horreur a toujours raconté des histoires extrêmement féminines parce que l'horreur a toujours pioché dans les oppressions que vivent les femmes au quotidien pour inventer ces menaces horrifiques plus ou moins métaphoriques. Donc ça a toujours été un genre profondément féminin, pas exclusivement féminin mais profondément féminin. Et j'avais envie de remettre un petit peu ça sur le devant de la scène et en fait d'inverser les clichés que moi j'avais vus aussi bien en tant que spectatrice et après en termes de sexisme aussi, moi ce que j'avais pu observer sur les plateaux quand j'ai travaillé sur des plateaux.
Alors moi j'avais une question par rapport à la conférence du coup. Je vous ai déjà posé une question sur le moment, mais je me demandais est-ce que bah, vous pensez que grâce au film, l'être humain il pourra se rendre compte de son impact un peu sur son environnement et puis surtout, est-ce que c'est un peu le chemin à suivre, enfin la propagation de ces films pour un peu montrer bah, du coup l'impact
bah, alors... je suis convaincue que ça sert à quelque chose. Je suis convaincue qu'il y a des prises de conscience qui se font à travers les films. Moi, ça m'est déjà arrivé sur divers sujets. Ça arrive à des gens. D'ailleurs, dans la conférence, je parle du film le jour d'après de Roland Emmerich. Si je ne m'abuse, à l'époque, je crois que le président des États-Unis, c'était Bush, donc pas spécialement quelqu'un qui avait une politique extrêmement ni progressiste ni écologiste, et qui pourtant, avec ce film et avec l'impact qu'il a eu sur le public, a été forcé à un moment donné de revoir un petit peu son discours écologique parce qu'on lui présentait en fait à travers le grand spectacle de la pop culture des thèses scientifiques plus ou moins avérées, plus ou moins crédibles en tout cas, et qu'il a été obligé de reconsidérer ça grâce au cinéma. Bon, c'est un peu dommage qu'il faille parler au président américain à coup de film pour lui faire prendre conscience de certaines choses, mais bien sûr que le cinéma sert à ça et que l'art de manière générale sert à ça. Après, en ce moment, je suis aussi un petit peu dans des considérations un peu plus désespérées, parce que l'époque dans laquelle on vit nous conduit à ça, de se dire mais en fait on peut avoir toutes les prises de conscience qu'on veut face aux ultra riches, en fait ça sert à rien, faut passer à quelque chose d'un peu plus solide comme révolte. Je sais pas, c'est très utile, ça sert énormément. Après, je pense que ça ne suffit pas, malheureusement.
C'est quand même hyper intéressant ce que vous dites sur ce rapport à la fiction comme outil politique. C'est quand même une conversation qui est assez présente, surtout au niveau de la science-fiction comme outil politique. Et je sais que là, par exemple, dans les films que vous allez passer, vous allez notamment passer Mélancolia, qui est un de mes films préférés. Et du coup, moi, ce qui m'intéressait de voir, c'est quand même dans Mélancolia, il y a cette histoire de ces deux sœurs et de ces femmes qui font absolument l'entièreté du film et donc il y a un lien quand même entre sororité et horreur, et le fait que justement on peut rallier je me suis perdue dans mes mots, mais qu'on peut rallier justement cette peur de comment est-ce qu'un film réellement peut avoir un impact, parce qu'au final on est face à des personnes qui ne vont même pas les regarder, ils sont complètement ailleurs, et comment est-ce que peut-être ils peuvent permettre de créer une force et de montrer que entre nous il y a une communauté, il y a des personnes qui se bâtissent, et que ok, certes, probablement qu'on va pas pouvoir faire grand chose, mais avec le peu qu'on a on peut se rassembler. Est-ce que c'était une des intentions aussi dans ce parcours thématique de créer communauté autour de ces films et de montrer aux gens qu'il y a des choses aussi possibles, des liens possibles entre nous
Alors je vous avoue que moi la sélection de films, c'est pas du tout moi qui l'ai faite pour le coup.
Ah oui,
moi je suis vraiment intervenante qui vient me plaquer au programme, qui m'adapte. Mais de toute, enfin oui, en tout cas dans ce type de film là, les films post-apo, les films qui de manière générale parlent de pré-apocalypse, d'apocalypse ou de post-apocalypse, évidemment que toute la question est à quoi tient la société, faut-il reconstruire un format de société, et si oui, parce qu'en fait à partir du moment où vous avez deux personnes, vous avez déjà une forme de société, et en fait à quel point l'homme en fait c'est nécessaire pour l'homme pour exister, pour se maintenir, pour alors évidemment qu'il y a aussi des histoires parfois d'ermites qui vivent seuls, justement, qui apprennent à vivre seuls, et là qui se construisent en opposition même à l'idée de société, mais c'est quelque chose qui est quand même assez nécessaire pour l'homme. Et à partir du moment où vous avez plusieurs personnages et qu'on se retrouve dans un univers complètement détruit autour du thème de l'apocalypse, il faut parler effectivement de la manière dont la solidarité peut aider à reconstruire un monde en soi, quoi.
Mais c'est super, parce qu'on en parlait juste avant aussi avec Steven Corvez et Sylvain Elliot qui sont venus pour l'interview, et qui parlait de l'importance en fait d'avoir des humains dans le travail d'une composition musicale, et du fait que c'est ce lien humain qui va créer l'émotion et qui va le permettre d'avoir un vrai rendu. Et c'est vrai que là, en fait, on revient toujours à cette même conversation de l'importance que de voir les uns les autres. Et on vit dans une société qui essaye de nous individualiser énormément et de constamment faire en sorte qu'on soit tous séparés. Et c'est vrai que si on peut utiliser l'art pour justement imager et nommer des émotions que tout le monde peut vivre, mais en fait ne savent pas nécessairement mettre les mots dessus, c'est quand même super. Donc vive le cinéma et vive l'art.
Alors, je me demandais aussi pourquoi ce choix de film occidentaux, en fait, dans le choix de films, enfin de passages que vous avez montré lors de la conférence.
Oui, c'est vrai qu'il y a surtout dans cette conférence-là, un peu moins dans l'autre où j'ai des références japonaises aussi, mais dans celle-là, il y a beaucoup de références américaines et un peu de références françaises. Et en fait, je pense que au-delà de la nécessité d'essayer de parler au plus grand nombre, et en général, malheureusement, notre culture ciné est quand même très américanisé, très américano-centré. Il y a aussi, de toute manière, une surreprésentation de ces thématiques-là dans le cinéma américain pour plusieurs raisons. Je pense que parce que c'est un type de cinéma qui appelle à un certain spectacle dans lequel les Américains se sont fait une certaine spécialité parce qu'ils ont les moyens, parce que voilà, ils vont vers ce type de cinéma. Et aussi parce que de leur idée, parce que les Américains ont une très haute idée de leur pays et de leur puissance, ça implique forcément une considération sur ces questions-là. Des destructions de grande échelle, encore une fois l'idée de la légitimité du droit, de la morale, etc. C'est des choses qui sont hyper fondamentales dans le cinéma américain Et comme aujourd'hui, ils sont une immense puissance et que, comme je le disais, dans le sillage un petit peu de la Seconde Guerre mondiale, avec l'idée que l'homme a les moyens, et donc notamment ce genre de pays, d'orchestrer lui-même des destructions de masse, je pense que c'est spécialement présent dans le cinéma américain de toute manière, oui.
Vous avez parlé vous parlez beaucoup de reconstruire après l'apocalypse, etc. Est-ce que cette idée de remise à zéro, pardon du terme, ce serait pas un peu réactionnaire?
Oui, alors on peut envisager les choses comme ça aussi. Alors c'est vrai que le côté tout va mal, tout fout le camp, c'était mieux avant, il faut pas faire confiance à la technologie, aux nouvelles technologies, etc. On peut très vite relier ça à des discours qu'on entend en ce moment de il faut interdire les réseaux sociaux aux jeunes ou ce genre de choses, essayer d'incriminer en fait les outils de la modernité plutôt que les comportements humains. Et donc effectivement, on pourrait faire dévier ce discours-là vers quelque chose de réactionnaire, mais en fait, on peut toujours tout faire dévier quelque chose vers une idéologie. Je dis réactionnaire, ça dépend comment on l'utilise, comment on présente les choses. Et donc, mais en même temps, on est aussi dans des situations où on se dit, il y a quand même des systèmes, je pense par exemple accessoirement au capitalisme, on vit aussi dans des systèmes qu'on a réellement besoin de dépasser et quand même d'effondrer, je dis pas forcément avec violence, je dis pas voilà, mais en tout cas qu'on a besoin de détruire d'une manière ou d'une autre pour réussir à les dépasser. Donc en fait, cette idée, je pense que beaucoup d'idées, à part vraiment ceux qui sont dans le laisser-faire total, beaucoup d'idéologies, beaucoup de visions politiques vont aller dans le sens d'une destruction parce qu'on arrive de toute manière à une sorte de point de non-retour. Après, c'est cette destruction, comment on l'envisage et surtout qu'est-ce qu'on envisage de faire après.
Merci beaucoup Judith pour cet échange et pour votre regard éclairant. Le jour où tout s'arrêtera est à découvrir au festival cette semaine. Toute la programmation est à retrouver sur le site de l'association Gros Plan que l'on remercie pour l'organisation du festival. D'ailleurs, merci encore et à tout à l'heure.
C'est vous Judith.
Aujourd'hui, nous sommes accompagnés par les lycéens du lycée de Cornouailles. Et puisqu'au KIF, il y a aussi des formats courts, nous nous retrouvons avec Isabelle Lenoble. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec nous sur ce plateau afin de nous parler de votre série Douce qui a fait sensation sur les réseaux. Et oui, car il s'agit d'une série au format court à la verticale. Nous allons en apprendre plus, mais tout d'abord, j'aimerais accueillir également Lise.
Bonjour.
Et Lorelai.
Et Lorelai. Merci beaucoup. Je suis vraiment désolée, Lorelai. Alors, la série Douce est une série qui met en scène une mère de famille et son quotidien et qui, de manière très humoristique et assez crue, décrit les réalités d'être maman, d'être enceinte. C'était bien nécessaire d'avoir des images pareilles, alors merci beaucoup. Comment vous est venue l'envie de travailler sur le thème de la maternité ?
Alors, à la base, Douce, c'était un petit exutoire, des petits croquis que je faisais comme ça pour faire marrer les copains. Donc, je vous parle de ça il y a 25 ans. Et puis c'est devenu un petit projet de BD. Entre temps, j'ai fait d'autres choses et c'est ressorti de mes cartons il y a 10 ans. Et j'ai travaillé donc avec Vivement Lundi, la boîte de prod, pour faire un sujet un peu plus trash que ce que c'était à l'origine. Ça avait un ton un petit peu plus doux sur la maternité. Et j'avais très envie de faire un personnage féminin qui balaye la maternité sous tous ses aspects, donc d'être enceinte jusqu'à la grande adolescence. Voilà.
Alors, le mot douce, il contraste beaucoup avec l'héroïne qui est quand même du coup plutôt trash, violente, crue. Enfin, elle mâche pas ses mots, quoi. Et du coup, pourquoi avoir appelé la série Douce ?
Alors justement, c'est pour ce gros contraste. Je voulais un personnage un peu comme Homer Simpson. Les Simpsons, ça a 30 ans. Et un personnage un peu cracra, bête. Mm. Je voulais un personnage féminin bête, en fait. Voilà. Et finalement, elle n'est pas si bête. Elle est très proche de nous toutes, maman.
Ouais.
Il y a quelque chose d'assez intéressant qui se crée à la relation qu'on entretient avec Douce, avec cette femme, parce que d'un côté, j'ai vraiment de l'empathie pour elle et je la comprends. Et enfin, c'est une bonne mère, elle fait clairement de son mieux. Et sauf qu'en même temps, comme vous dites, elle est imparfaite et moi, je la trouve égocentrique. Enfin, elle est vraie, mais du coup, ça fait que quand je regarde la série, je me rends compte que dans la réalité, on sera pas copines, quoi. Elle et moi, mais pour autant, ça enlève en rien le respect que j'ai pour elle. Et je trouvais que ça, c'était quand même très fort d'avoir réussi cet exercice avec en plus un format très court d'épisodes de 3 minutes comme ça, créer un personnage qui est aussi humanisé et aussi vrai, et qui a vraiment une dimension.
Bah, c'était tout l'enjeu de faire de l'empathie avec un personnage, qui soit un peu bête, ce que je disais là pour Homer, c'est une vraie volonté parce qu'il n'y a pas ça en fait. Dès qu'on parle de maternité et encore plus de femmes enceintes, on sacralise ou alors on fait des petites blagues, mais on va pas très très loin. Et notamment la sexualité, et là de faire mettre même Douce en femme enceinte dans un rendez-vous Tinder, c'est là où j'ai poussé pour moi le plus dans des choses où voilà.
Une autre question, pourquoi avoir choisi d'utiliser du coup la 2D
Alors ça, c'est pour toute ma liberté graphique à moi. C'est, en animation, il y a plusieurs techniques d'animation. Et là, c'était d'avoir tout ce rendu graphique très lâché, comme mes carnets de croquis. Et à chaque plan, d'ailleurs, elle change de forme. Les posings, donc les attitudes qu'elle prend, sont différentes. Et surtout, graphiquement, elle ne se ressemble pas d'un plan sur l'autre. Ça fait une homogénéité à la fin graphique, mais en vrai, elle ne se ressemble pas d'un plan sur l'autre. Et ça, c'était aussi une volonté de ma part de faire une femme qui peut être grosse, vieille, jeune, belle, sexy, voilà, qui a un peu tout ça et qu'elle soit nous toutes, en fait.
Quels ont été les retours sur justement ce choix de faire de la 2D et aussi le choix du format, de format vertical ?
Plutôt bon. Mmh. Alors déjà, comme ça casse les codes graphiques... Mais ça, cette liberté-là, je l'ai eue aussi parce que c'est économiquement parlant. On m'a donné la possibilité de le faire. Je pense pas que de faire un Douce avec toute une armada de techniciens, comme j'ai eu pour d'autres séries, c'est beaucoup plus complexe parce que c'est une interprétation de mon graphisme. Mmh. Ça se met pas en place de la même manière. Là, j'ai eu la liberté d'écrire dans un premier temps, de faire les storyboards moi-même et donc tous les posings moi-même. Et donc ça, c'est quelque chose d'économique. Après, de faire le format vertical... ça m'a été imposé au début puisque c'était pour les réseaux sociaux et j'ai pigné au début et puis finalement j'ai adoré l'exercice. On met pas en scène de la même manière à la verticale qu'à l'horizontale et comme mon graphisme est en 2D très à plat, ça m'a permis de faire des entrées de champ différentes, un rapport à l'image totalement différente et de consommer justement cette petite pastille de 3 minutes sur un téléphone portable. C'est pas le même objectif que de le consommer sur un grand écran. Et c'était voulu, en fait. Le graphisme est adapté à ce petit écran aussi. Le fait qu'il n'y ait que deux couleurs aussi, voilà.
Oui, alors du coup, le format vertical, ça permet aussi de la rendre accessible sur les réseaux sociaux. Donc du coup, ça permet de toucher un plus grand nombre de personnes aussi.
Oui, alors ça, j'en avais pas complètement conscience au début.
Ah oui, ok.
mais oui, j'avais conscience de que ça puisse être regardé sur un petit écran, que ce soit consommé comme un bonbon, quoi, en 3 minutes, puisque 3 minutes à la télé, c'est pas la même chose. Mais du coup, je l'ai créé en fonction de ça, c'était plutôt agréable. Mais oui, de toucher plus de gens, probablement.
Et du coup, ça a dû prendre. Enfin, est-ce que ça a pris beaucoup de temps, du coup, la réalisation, tout ça En tout, ça réalise combien de.
Ça représente combien de temps de travail? Alors, comme c'est une toute petite équipe et que c'est moi qui fais les storyboards, et après, il y a les animateurs derrière, les décorateurs, ça a dû s'étaler dans le temps à mon rythme, puisque je pouvais faire qu'un storyboard à la fois. Donc, le storyboard, vous voyez ce que c'est? C'est la mise en image après le scénario. On met en image plan par plan, sans animation. On donne le rythme de l'épisode. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que justement, le dessin définitif de Douce était déjà dans chaque case. Donc ça représentait du temps de travail pour moi plus long. Dans cette économie-là, on a mis 1 an. Mais si on l'avait fait en traditionnel et qu'il n'y ait pas tant de changements de personnages et qu'il y ait toutes les équipes comme d'habitude... ça aurait représenté la moitié du temps, je pense. 6 mois.
Est-ce que, au final, maintenant que vous avez eu cette expérience d'un format alternatif et d'une méthode de travail alternative que vous avez appréciée, de ce que j'ai cru comprendre, ça vous fait aussi remettre en question votre rapport à ce travail de réalisatrice et de voir comment est-ce que potentiellement... il y a des limites au format traditionnel et peut-être du fait de travailler dans des cases un peu restrictives qui vous conviennent peut-être plus tant que ça et vous voyez retravailler sur des formats qui vont être différents et sur...
Très bonne question. Alors, en effet, la liberté, c'est la vie.
Ouais,
mais pour vivre, il faut manger aussi. Donc, c'est des choix. Je ne peux pas me permettre d'avoir ces formats-là et mes producteurs non plus, parce qu'il faut toute une économie derrière. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir être financée pour faire un projet comme ça, sans qu'il se soit diffusé sur beaucoup de chaînes. Ça, c'est une vraie liberté. Après, par la suite, donc là, j'écris un long métrage, ce sera un long métrage, donc ce sera un autre type de support. Bosser sur les autres projets, c'est obligatoire aussi, puis c'est intéressant. Mais oui, ça me donne un autre rapport en tant que réalisatrice à quelle est ma liberté, quel est mon plaisir. Mmh. Et en effet, sur cette série-là, c'était un réel plaisir de travailler. La contrainte n'est pas du tout la même que quand on travaille avec toutes les contraintes imposées par les chaînes, mais mmh. c'est comme ça. Et puis surtout, là, c'est de l'adulte. Et travailler pour les enfants, il y a un cahier des charges énorme, il y a un ton, il y a beaucoup de choses, ça passe à la moulinette chez les psys, chez les machins. Et c'est parfois très compliqué, voilà. C'est un autre exercice.
Ok. C'est vrai qu'au final, c'est un peu le fil rouge, je pense, de cette émission qui va être cette place en tant qu'artiste et de justement... Enfin, de toute façon, c'est un débat qui est constant. Moi-même, en tant qu'artiste, j'en fais très partie. C'est quoi cette limite qu'on va poser individuellement pour dire, ben, jusqu'ici, je vais faire parce que j'ai besoin de me nourrir et de vivre et d'être considérée, mais au bout d'un certain point, je vais refuser par éthique et par qualité de travail et parce qu'en tant qu'artiste, mon but n'est pas nécessairement de produire. En tout cas, moi, je considère que n'est pas du tout le fait de produire de la définition qu'on va donner par le capitalisme et par le système dans lequel on est actuellement. Et donc, du coup, comment vivre en tant qu'artiste? Et c'est vrai que je pense qu'il y a un juste milieu dans ce fait de serpenter. Et là, vous avez trouvé un bon serpent, quoi.
J'ai beaucoup de chance. En fait, j'estime que je suis très chanceuse là-dessus parce qu'on ne va pas se mentir, c'est pas tant les limites que je me fixe. Mm-hmm. C'est... ma possibilité dans la vie à pouvoir faire ça. Si je me fixais des limites en disant non, je ne fais que ce que je veux, ça se passe pas comme ça la vie. j'aimerais bien, mais non. Donc c'est pas tant les limites que je me fixe, mais plus l'opportunité que j'ai et l'énergie que je mets à pouvoir faire ce que je veux. Voilà.
Écoutons un extrait de la série Douce dont on parle tant depuis quelques minutes.
Mais tu fais quoi là?
C'est pour qui le bidou?
J'ai mal au dos, bordel!
T'en fais pas un peu trop, là? Mais non, pleure pas! T'as les hormones aussi, t'es plus hermétique, hein, c'est normal.
Aïe! C'est quoi?
C'est juste une petite contraction.
Une contraction?
Mais c'est le numéro 4, hein, faut se ménager. Respire, chérie.
Et si j'accouche?
Mais non! Tu peux pas!
Je vais crever!
On se détend,
là. On se détend!
Donc là, c'était un extrait de l'épisode 8. Je pense que c'est celui qui m'a le plus touchée parce que, en fait, dans le fond, il y a vraiment cette idée de dire, bah voilà, regarde tout ce que tu penses qui est facile et qui, en fait, ne l'est pas du tout. Et moi, c'est mon quotidien et on prétend que c'est simple parce que c'est banalisé. Mais en réalité, quand toi, tu te retrouves dans cette position, bah d'un coup, tu réalises à quel point c'est pas facile. Et à chaque épisode, quand même, il y avait un petit peu ce lien de dire bon, bah là, on va parler de tel ou tel rapport à la maternité et au fait d'avoir un enfant. Je pense que celui-ci, il y a peut-être un souhait un peu global parfois quand on se retrouve face à une personne qui n'a jamais vécu et qui ne vivra pas cette chose-là et qui ne va pas comprendre de vouloir lui foutre dessus. Et du coup, je suppose qu'il y avait une sorte de satisfaction quand même au fait de dire bah tiens, je te le passe.
Bah, bien sûr. et toute la frustration aussi de pas pouvoir faire. Quelque part, on a choisi aussi. Enfin, ça dépend des cas, hein, voilà. Mais quand on choisit d'être enceinte, voilà, on a choisi. C'est comme ça, c'est la nature. Mais oui, c'est agréable de pouvoir faire porter à l'autre un peu ce qu'on vit, quoi.
Ouais, c'est sûr. Est-ce que vous avez des personnes pareilles de ce rapport-là, parce que les thématiques abordées sont tellement importantes, qui vous ont dit, moi j'en ai appris grâce à vous, je vous remercie de montrer cette réalité-là, qui est quand même, moi pour le coup, j'avais jamais vu dans un média mainstream comme ça, sur mon téléphone ou quoi, quelqu'un parler aussi réellement du sujet de la grossesse et de la maternité.
Merci.
Avec plaisir.
Alors, justement, super compliment d'une dame qui m'a appelée. Elle était dans un festival. Elle m'a appelée pour des choses professionnelles, en fait. Et elle a 80 ans. Et elle s'est éclatée, apparemment. Et elle m'a parlé de la série. Je n'imaginais pas toucher un public de cet âge-là. Parce que, en effet, dans l'humour ou dans les sujets abordés, voilà, c'est un certain public. C'était pas spécialement pour les ados. Et quand cette dame-là, justement, m'a dit merci, parce qu'elle est d'une génération où c'était beaucoup plus tabou. Et où c'était la norme, quoi. On porte un enfant, on est une mère, et elle s'est battue, elle justement comme on n'est pas de la même génération, ce sont toutes ces femmes là qui ont ouvert les portes et qui se sont vraiment battues. et ouais, ça m'a beaucoup touchée, en fait.
Moi, j'aimerais bien revenir sur le personnage principal féminin. Donc, j'avais une petite question. Parce que j'aimerais dire qu'elle est complètement décomplexée dans sa façon de répondre, et c'est très cru. Et du coup, je voulais savoir si ça avait été complètement, c'était le caractère du personnage était complètement sorti de votre imagination, ou si vous étiez inspiré d'échanges ou de quelqu'un de réel pour le créer.
Comme c'est un peu mon double maléfique, elle est plus. Je lui fais dire des choses qui sont peut-être que moi j'aurais rêvé de dire des fois, ou évidemment que je dis pas à mon enfant il est complètement con alors que je lui fais dire à elle oui, c'était une liberté de ton. Elle a des choses qui me sont propres, mais aussi des choses fantasmées, des choses voilà. Mais dans l'écriture, oui, c'était voulu qu'elle soit... C'est marrant, t'emploies le terme décomplexé, je ne m'étais pas dit ça. Mais oui, c'est ça, en fait, aussi. Parce qu'elle est aussi un peu bête, parce qu'elle dit des choses quand même ouais. qui ne sont pas...
Elle n'a pas tout le temps raison.
Non.
Non, non.
Et justement, en ayant fini la série, j'ai regretté qu'elle ne soit pas plus bête. À la fin, j'ai constaté, je me suis dit, mais est-ce qu'elle est si éloignée que ça? J'avais imaginé faire un personnage... complètement border, mais au final, en regardant chaque épisode, il y a des fois, elle est un peu cohérente quand même. Mais je la voulais beaucoup plus incohérente et immature à la base.
Oui,
et
puis je trouve que sa bêtise nous fait réfléchir aussi. C'est ça qui est drôle.
Ah, merci.
Vous avez pas...
Okay. Moi, c'est bon.
Moi, du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que vous pensez continuer à travailler sur la maternité dans vos futurs projets, ou alors est-ce que vous avez envie de vous éclater partout ailleurs, ou là, c'est une niche que vous avez trouvée?
J'ai envie de m'éclater partout ailleurs.
Ouais. Comment ne pas?
Déjà, voilà, ce projet-là, il est vieux. Puisqu'il a quand même 20 ans et il sera toujours intéressant. J'aurai toujours des enfants qui vont grandir, j'aurai toujours des tas d'autres trucs à dire, mais en ayant l'âge que j'approche 50 ans là, j'ai plus envie de parler de sujets qui me sont encore plus proches. J'ai des tas de choses à dire sur la vie à 50 ans et aussi de toute manière sur mes enfants aussi à l'âge qu'ils ont maintenant, vu qu'ils ont entre 25 et 20 ans. J'ai d'autres choses à dire encore.
Ouais, et toujours quand même avec ce rapport à l'autobiographie, il y a toujours quelque chose qui part de soi dans votre travail.
Je suis très égocentrée.
Moi pareil.
En fait, je sais pas, c'est bizarre, c'est comme une petite thérapie, voilà. Donc oui, il y a toujours une part de nous là-dedans.
Et moi, j'avais entendu une phrase que j'avais trouvée assez belle récemment de quelqu'un qui parlait de poésie, mais je pense qu'on peut le mettre à l'art de manière générale, et qui disait la poésie, c'est le fait de réussir à écrire sur le papier des émotions que les autres n'ont seulement vécues. Et c'était cette idée de dire, en fait, tu pars de toi, mais le travail d'un artiste, ce serait de réussir à nommer, justement, ou à montrer, à mettre un pied, une image sur une émotion qui est commune à tout le monde. Et donc, au final, forcément, ça part toujours un petit peu de l'autobiographie.
Après, j'admire les gens qui sont capables de parler carrément d'autres choses et tout ça. Moi, ce qui m'anime plus, c'est de sortir un truc de moi, de savoir de quoi je parle, et voilà.
Merci beaucoup Isabelle d'être venue pour nous parler de votre série de Douce que l'on retrouve sur nos smartphones. Radio. Merci à toutes et tous nos invités. Chaque année, le Festival du Kif à Quimper s'axe autour d'une thématique. Cette année, la musique au cinéma, l'année dernière, les comédies musicales. J'ai hâte de voir ce qu'ils nous proposeront l'année prochaine. C'est un festival à ne pas manquer dans le Finistère. Bonne journée aux invités, bonne journée aux lycéens qui m'ont accompagnée et à très bientôt sur Radio U.